Le livre du Lévitique dans la Bible est très indigeste, avec des rites sortis tout droit de la préhistoire, avec des ordres contraires absolument à l'Évangile, comme d'appliquer la peine de mort pour le blasphème, par exemple. Et puis des principes de pureté et d'impureté qui sont assez étranges. Par exemple, le fait d'accoucher d'un garçon rend la femme impure une semaine, c'est déjà assez curieux, mais accoucher d'une fille rend impure pendant 2 semaines. Expliquez-moi ça. Mais nous sommes ici pour chercher ensemble ce que la parole de Dieu a pour nous dans le choc entre la Bible et puis notre existence quotidienne. Alors je vous propose d'ouvrir avec courage ce livre du Lévitique ce matin, de l'ouvrir à une page difficile, alors que j'aurais pu prendre des perles qui sont enfouies dans ce livre, comme « Aime ton prochain comme toi-même » que reprend Jésus, non, de le prendre une page bien difficile. Alors on a quand même le droit de faire le tri dans les textes bibliques, car tout n'est pas nécessairement bon, tout n'est pas nécessairement bon pour nous aujourd'hui, mais pourtant ces textes parlent de la vie, ils parlent de la foi, ils posent des bonnes questions sur l'homme et sur Dieu. Et en particulier ces bonnes questions, quand on les lit avec dans la tête l'évangile de Jésus-Christ qui annonce l'amour de chacun de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous pouvons vraiment en tirer quelque chose. Alors, peu avant Noël, je vous avais lu un texte où Jésus invitait des lépreux à aller monter vers les sacrificateurs pour accomplir un des rites du Lévitique. Alors, je ne vous avais pas lu le texte biblique qui raconte ce rite, parce que je trouvais que c'était quand même un peu exagéré. Mais écoutons-le ce matin. Donc, c'est au chapitre 14 du livre du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur et le sacrificateur sortira du camp. » Parce que le lépreux a été chassé en dehors du camp pour sa lèpre. « Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau et il sera pur. Ensuite il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe jusqu'à ses sourcils. Il rasera tout son poil, il nettoiera ses vêtements. Il lavera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an et sans défaut, 3/10 de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il fera devant l'Éternel le geste de les dédier. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge la victime pour le péché et l'holocauste dans le lieu saint. Car la victime de culpabilité, comme la victime pour le péché, est pour le sacrificateur, c'est une chose sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra le log d'huile et l'en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite, de celui qui se purifie, puis sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. le sacrificateur mettra ce qu'il lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera ensuite pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché, il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure, ensuite il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et alors il sera pur. Alors en écho, je voudrais vous lire un texte de l'Évangile du Christ qui parle lui aussi des commandements de Dieu et puis de notre pureté et de notre impureté. Alors c'est au chapitre 15 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 7. Jésus nous dit, « Hypocrite, Jésus a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines et des préceptes humains. » Jésus appela à lui la foule et lui dit, « Vous, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Mais est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ta parole ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les donc. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous donc cette parabole. » Jésus lui dit, « Vous aussi, vous êtes sans intelligence ? Comment ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté aux toilettes ? Mais c'est ce qui sort de la bouche qui provient du cœur, et c'est le cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, les vols, le faux témoignage, le blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne peut pas rendre l'homme impur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors pour souffler un peu, je vous propose de chanter au psaume 72 dans le psautier français les trois strophes « Revêt Seigneur de ta justice pour que Christ soit donc Christ pour nous ». Revêt Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Alors nous avons du mal évidemment à nous remettre dans cette façon de penser de l'époque du Lévitique. Le fidèle devait faire attention scrupuleusement dans les moindres détails pour garder de tout ce qui pouvait le rendre impur. La moindre contact avec une bestiole impure suffisait. Les sacrificateurs devaient veiller à la séparation stricte entre le pur et l'impur. Dans la logique du Lévitique, c'est une question de survie pour tout le peuple. En effet, l'impur est contagieux et le pur devient impur par simple contact, par moindre contact. Les choses ne sont donc pas symétriques et le peuple tout entier est en danger si l'on garde de l'impur. Sans espoir de secours, car Dieu et l'impur, c'est un peu comme le feu et la glace, ou comme la lumière avec les ténèbres. Ils ne peuvent entrer en contact l'un avec l'autre sans que l'impur soit immédiatement et totalement détruit. L'impur, qu'est-ce que c'est dans la Bible ? L'impur, c'est ce qui nie la source d'évolution, de beauté et de bonté qu'est Dieu. L'impur, c'est ce qui salit ce qui est bon, ce qui trouble ce qui est limpide. Il est synonyme de déconstruction, de retour au tohu-bohu des origines, où tout est mêlé, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Alors Jésus n'est pas un doux rêveur, il est bien placé pour savoir qu'il y a de l'impur dans ce monde et que cela menace sa survie personnelle et le monde, bien sûr. Mais il nous dit que c'est l'homme en général, c'est tout homme qui est en partie impur par son cœur. En effet, nous dit-il, est-ce qui n'a jamais eu la moindre petite mauvaise pensée ? Et donc cela remet complètement en cause le principe même, l'idée de séparation du Lévitique et le projet de faire un petit club de gens purs. Ce n'est pas possible. Et c'est la même démonstration qui permet à Jésus de libérer la femme adultère alors qu'elle était allait être lapidée par des personnes qui croyaient bien faire, selon la logique de séparation rigoureuse du Lévitique et du Deutéronome. Ôtez le méchant du milieu de vous. D'accord, nous dit ici Jésus, mais le méchant, c'est en chacun de nous. Donc mettons-nous au travail ensemble, les uns pour les autres, et non pour exclure et pour tuer. La réflexion du Lévitique sur la pureté et sa relecture par Jésus, en fait, elle parle de nous. Elle parle de notre monde, oui, il y a des choses, il y a des forces, il y a des situations, il y a des façons de vivre les situations qui peuvent avoir un effet positif, faire créer la vie, nous faire avancer. Et puis d'autres qui souillent, qui laissent le chaos déconstruire la vie ou la pourrir. Jésus garde donc quelque chose du Lévitique, puisqu'il reprend les catégories de pur et d'impur, et à l'occasion, il envoie aussi les lépreux vers les sacrificateurs pour accomplir le rite. Mais Jésus change complètement, profondément, la compréhension de notre rapport à l'impureté. Le livre du Lévitique, il propose de chasser hors du camp ce qui est réputé être frappé de lèpre. Alors il suffit de pas grand-chose. Une calvitie un peu trop sur l'arrière du crâne plutôt que le devant, une peau un peu trop rouge ou trop blanche peut suffire pour être classé lépreux. Et l'homme devra habiter seul, en dehors de la communauté des humains, et crier en se déplaçant « impur, impur, sympathique ». Jésus dénonce ces chasses aux sorcières des intégristes. La lèpre n'est ici finalement qu'un symptôme de l'impureté, pour le Lévitique, pour la Bible en fait. Impureté qui peut se manifester aussi bien sur le corps que sur les vêtements, que sur la maison. Alors ce n'est pas la maladie qui rend impure, mais c'est l'impureté qui rend malade. Et ce n'est pas la contagion de la lèpre qui fait que l'on chasse en dehors du camp le lépreux. Mais c'est la contagion de l'impureté qui pourrait gangréner, je dirais, tout le peuple, tout notre monde, toute notre société. C'est ça la logique du Lévitique. Alors les deux cas les plus connus de lèpre sont ceux de Moïse et ceux de Myriam, sa sœur. Moïse est envoyé vers les siens pour leur annoncer que Dieu va les libérer de leur esclavage en Égypte. Et Moïse répond « Ils ne me croiront jamais ». Moïse doute ainsi de Dieu, il accuse ses frères d'être bouchés. Aussitôt, sa main est frappée de lèpre quelques instants. Myriam se met à critiquer elle se met à critiquer Moïse d'avoir pris une femme étrangère, une fois de plus. Puis elle continue en disant « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce qu'il ne parle pas aussi par nous, Aaron et moi-même ?» Et Myriam va être frappée d'une lèpre qui la rend entièrement blanche de lèpre, voilà, et ça va durer 8 jours. Alors comment donc Moïse et Myriam sont ainsi signalés comme étant source d'impureté, comme étant impurs? Comment est-ce qu'ils ont été source de chaos? Ils ont mal parlé contre Dieu et contre leurs frères. Et ben, ils n'ont pourtant rien dit de terrible. Comme le dit Moïse, il est bien possible que le peuple n'écoute pas. Mais Moïse accuse d'avance. Il sème le doute et il prend ça comme un prétexte de ne pas marcher avec les autres ni pour les autres. Et Myriam a raison de dire que c'est contre la loi d'épouser une étrangère, c'est contraire au code de pureté qui impose par précaution de se tenir à l'écart de ceux qui sont à l'extérieur pour ne pas risquer de se laisser contaminer par leur impureté. Myriam a donc raison de dire que selon la lettre de la loi, Moïse a fait une faute, mais elle humilie Moïse, qui est abattu, qui ne sait pas quoi répondre. Et elle en profite pour dire qu'elle aussi et Aaron sont prophètes et ont leur mot à dire, ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs. Mais ce n'était pas non plus à elle de le revendiquer. Alors la mauvaise parole qui provoque la lèpre est ainsi une parole qui diminue l'autre, un peu. Une parole qui nous compare aux autres, une parole qui nous désengage de notre responsabilité vis-à-vis des autres, une parole qui est une graine de régression, de chaos. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces épisodes de Moïse et de Myriam, qui forment l'archétype même de l'impureté, ce n'est pas un geste terrible comme un meurtre ou une trahison comme un adultère ou une calomnie. Nous avons ici une parole qui dissout un peu la communauté par le doute, par la jalousie, par du manque d'espérance ou finalement par une parole méchante. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des personnages par ailleurs extraordinaires comme Moïse et comme Myriam qui sont ici l'archétype même, le symbole même de l'impureté, de la parole méchante, et cela peut nous rendre modestes et nous encourager en même temps. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il reprend cette façon de voir quand il dit que c'est la parole méchante, c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur, car ce qui sort de la bouche vient du cœur, et que c'est du cœur finalement que viennent les choses qui vont rendre l'homme impur, l'homme en général, et donc tout homme en fait. Le Lévitique, il invite à chasser du camp l'homme marqué par la lèpre, il invite à le lapider, à isoler l'impureté. L'impureté de l'homme est un problème, c'est vrai, c'est une question qui se pose à nous, à notre Église, à notre société, à nous-mêmes. C'est une des réponses possibles, celle du Lévitique. C'est en effet de chercher à se serrer les coudes dans un petit club des plus justes possibles, des personnes les plus justes possibles, et de bien chasser les méchants en dehors. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mais Jésus réagit différemment. Ce qu'il dit, c'est plutôt ôter le méchant du dedans de vous, en fait. Le danger pour nous, dit-il, ne vient pas de l'extérieur, comme une impureté contagieuse, mais le danger est de toute façon déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Alors comment réagir? Jésus parle aux lépreux, il les envoie non encore guéris, se montrer au sacrificateur. Jésus réintègre finalement donc dans le camp, malgré les signes d'impureté. Nous sommes de toute façon tous plus ou moins impurs. La vraie source de chaos, c'est de vouloir chasser l'homme. L'homme impur, bien sûr, certes, mais de le chasser au lieu de s'unir ensemble contre l'impureté. L'impureté, c'est donc à ce moment-là, c'est sous toutes les forces qui vont être centrifuges, qui vont séparer, déchirer, écarter, alors que Jésus propose au contraire une action centripète, c'est-à-dire qui va réunir, qui va rassembler, qui unit qui, par la compassion. Alors, il va même vers ses lépreux, sans le savoir, sans les lépreux qu'ils ne savent pas qu'ils sont lépreux, que sont ces intégristes finalement, avec leur dévouement extrême, mais aussi leur extrême exigence pour chacun, et leur parole qui exclut. Leur méchanceté, en fait, dit Jésus, c'est un symptôme de la véritable impureté, celle du cœur. Pourtant, selon Jésus, oui, l'impureté reste mauvaise. Elle reste contagieuse. Elle est un poison pour l'homme qui la vit, et aussi pour ceux qui l'agressent à cause de sa méchanceté. Mais c'est une question de méthode, de travail sur l'impureté. Celle de Jésus consiste à travailler sur le cœur, pas sur le symptôme. De lutter en semant du bien plutôt qu'en chassant le méchant. Alors cela dit, attention, je ne vous dis pas qu'il nous faille toujours et partout aller vers tous les méchants de la terre. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Il faut sentir précisément avec le cœur, comprendre avec notre propre intelligence quelle est notre capacité de digestion des choses mauvaises. En tout cas, nous pouvons savoir que Dieu est comme ça pour nous, lui. Et nous pouvons commencer par faire cela pour nous-mêmes, être attentifs aux symptômes, sans nous exclure hors du camp, sans nous culpabiliser, mais comme un médecin se penche sur un blessé et travaillant sur le cœur des choses, de l'être. C'est alors que nous pourrions reprendre, comme le propose Jésus avec les lépreux, reprendre la purification du Lévitique. Mais reprendre ce rite absolument surréaliste à la Jésus finalement, sans attendre la disparition des symptômes pour traiter l'impureté, au contraire, comme une façon d'aller au cœur du problème. Alors il n'est pas question de prendre deux poulets vivants, d'en égorger un au-dessus de l'eau courante, d'y mêler un peu de poudre de cochenille, un bout de bois de cèdre, un peu de lichen ou d'hysope, je ne sais quoi. Mais ce rite, quand on le regarde bien, il nous appelle à vivre intimement et personnellement ce rite de Yom Kippour qui est aussi dans le Lévitique et qui nous dit le pardon de Dieu et qui nous dit que nous ne sommes pas seulement le méchant de l'histoire, que nous ne sommes pas seulement comme le premier oiseau qui est mort, mais aussi comme le second oiseau qui est vivant et qui peut s'élever, qui peut monter. Nous ne sommes pas seulement dans ce monde comme une source de mort et de sacrifice, comme quand on tue l'oiseau, le premier oiseau, mais aussi potentiellement comme une source de libération pour le second oiseau qui peut alors s'élever vers les hauteurs. L'aspersion du sang avec l'hysope nous invite à nous ouvrir intimement, personnellement, au récit de la Pâque, avec l'histoire de l'aspersion du sang pour que la mort ne passe pas par chez nous, mais qu'elle passe par-dessus. Alors oui, que la mort passe sans nous tuer, que les choses mauvaises, quelles qu'elles soient, celles qui sont dans notre cœur, nous lâchent enfin un peu, comme le Pharaon va laisser partir les Hébreux au travers de l'eau courante de la mer Rouge, du Jourdain, et qu'on puisse aller avec Moïse, donc vers la terre promise. Le bout de bois rouge, ça peut évoquer le temple de Jérusalem qui est fait en cèdre massif. Alors oui, le temple de Jérusalem, c'est le lieu de la purification possible, le lieu de la réconciliation avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu de la louange. Et puis le brin de cramoisi, ça peut évoquer la tente de la rencontre, c'est-à-dire cette présence de Dieu qui est au milieu de nous, en nous, pour nous faire cheminer, nous faire évoluer, nous faire avancer. Alors il faudrait lire chaque mot, chaque rite de ce passage du Lévitique pour voir en quoi il nous permet de revivre et de nous approprier nous-mêmes les promesses qui sont celles de la Bible, que ça devienne quelque chose qui nous travaille de l'intérieur. Alors ce rite n'est pas un rite d'exorcisme, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, puisque ceux qui en bénéficient sont déjà guéris de la lèpre. Mais ce rite est un rite qui ouvre à une évolution venant de Dieu, et dans la conception du Lévitique, si vous voulez, la personne impure, elle est indigne d'entrer en contact avec Dieu. Le lépreux ne peut pas donc bénéficier de ce rite, puisqu'il est encore lépreux. Et le prêtre ne peut même pas s'approcher du lépreux, parce que le prêtre, sinon, va perdre tous ses pouvoirs. Mais pour Jésus, au contraire, notre indignité, elle nous qualifie au contraire, aux yeux de Dieu, pour que le grand prêtre vienne en personne nous aider, nous toucher, nous guérir. Et donc, nul n'est privé du secours de Dieu s'il ne s'en prive lui-même, s'il ne s'exclut lui-même en dehors du camp. Et encore là, Jésus est bien du style à aller le chercher, celui-là qui s'exclut lui-même, de le chercher comme le berger va chercher la brebis perdue jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Alors le rite de Lévitique, il nous invite donc à nous ouvrir personnellement aux promesses de la Bible, dans l'écoute et dans la compréhension, nous dit Jésus. Comme le propose Jésus au verset 10, il nous propose d'entendre, voilà, ces paroles qui nous disent à la suite de ce rite, « Vous êtes purs ». Mais le rite n'est pas fini à cette seule parole. Il reste à se laver extérieurement, nous dit le rite, se laver extérieurement dans les moindres détails. Alors c'est seulement en second lieu, donc, qu'on nous propose d'essayer de purifier ainsi notre extérieur, de purifier nos actes, de purifier nos paroles, et de ne plus être un animal sauvage comme un être couvert de poils. Mais là encore, comment arriverions-nous à purifier nos actes extérieurs, purifier notre extérieur, alors que nous savons bien que nous sommes presque incapables de tenir la moindre des bonnes résolutions? Alors Jésus reprend pour ses disciples quelque chose de ce rite de purification extérieure lors de son dernier repas, nous dit l'Évangile selon Jean. Mais il nous dit que nous n'avons seulement qu'à nous laver les pieds, en fait. Nous laisser laver les pieds par le Christ. Alors Pierre fait le malin et l'orgueilleux, il dit non, non, mais Jésus dit, voilà, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il nous propose, avant même d'essayer de purifier notre extérieur, eh bien de compter sur Christ, de confier au Christ qu'il purifie notre cheminement, c'est-à-dire notre propre dynamique d'évolution, et qu'elle devienne ainsi bien orientée. Et c'est cela qui est prometteur, c'est la clé. Encore une fois, travailler non sur les symptômes, mais aller vraiment travailler sur le cœur, sur le spirituel, sur le cœur du cœur. Mais le rite n'est pas encore fini avec cette opération de lavage. L'opération de purification est terminée. Reste deux sacrifices et une onction. Et là encore, ce n'est pas pour acheter une place dans le cœur de Dieu. Il a déjà tout donné. Mais c'est pour s'en saisir et pour le remercier. Et pour que la reconnaissance nous motive pour se mettre au service. Car c'est ça le sens de l'onction d'huile. C'est à la fois une bénédiction, mais c'est aussi un envoi en mission. Le sacrifice du Christ non plus n'achète pas le pardon de Dieu, comme dans ce rite. Tout a déjà été donné avant. Donc la méthode du Lévitique, c'est de chasser l'impur hors du camp. C'est la méthode intégriste. L'impur est chassé hors du groupe, et tant que les symptômes visibles persistent, il n'est pas question qu'il y entre. L'homme impur, non seulement est déjà malade, mais en plus il est considéré comme indigne de faire partie de la communauté. Alors voilà, quand quelqu'un fait une faute morale ou théologique, il est stigmatisé, comme Myriam le fait en croyant bien faire. Voilà, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions en dénonçant les fautes de son frère. Mais c'est en faisant cela qu'elle, elle est impure et source d'impureté, de chaos. Alors les intégristes ici, ils critiquent Jésus. Ils ont 1000 dogmes extraordinairement raffinés qu'il faut croire, des choses à faire, à ne pas faire, au risque d'être déclaré impur et d'être chassé de la communion ou même de la vie. Au contraire, Jésus nous dit d'avoir confiance, d'écouter Dieu directement, de réfléchir à notre intelligence, de comprendre et d'y mettre du cœur. C'est par grâce que nous sommes servis par Christ, nous ne lui devons donc rien. C'est par grâce que nous pouvons, alors à notre tour, pouvons un petit peu servir l'impur qui se coupe de Dieu et de tous, s'il le veut bien. Sinon, laissez-les, nous dit Jésus, laissez ces plantes que Dieu n'a pas semées, elles se sécheront par elles-mêmes et elles seront déracinées. Laissez-les, nous dit Jésus en parlant des intégristes, nul n'est exclu de la communauté s'il ne s'exclut lui-même, mais vous, écoutez et comprenez. Amen.